On est déjà rendu à la huitième session de la famille selon Dieu. On a déjà vu l'origine de la famille, le rôle des époux, l'ambiance familiale, l'éducation des enfants, l'instruction chrétienne des enfants, la correction des enfants et le service dans l'Église. Et cette semaine, on est rendu à la gestion des finances. Donc, c'est quand même un sujet sur lequel la Bible a beaucoup de choses à dire. Puis après ça, de le vivre dans la famille aussi, ça amène des défis puis des réflexions. Donc, on va regarder ça plus en détail aujourd'hui. Je vous propose ce plan-là pour notre cours. Premièrement, une petite introduction. Après ça, on va partir sur la base de l'argent comme une bonne chose venant de Dieu. Mais on va aussi parler du danger qui est associé à l'argent. C'est important de garder ça en tête avant de regarder les préceptes bibliques relié à l'argent. Et après ça, de manière peut-être un peu plus pratique, comment gérer l'argent pour la gloire de Dieu et en famille. Puis, un petit mot de la fin pour conclure. Donc, comme le premier point, il disait, l'argent qui nous vient de Dieu, bien, c'est une bénédiction. Par contre, comme vous savez probablement dans vos cœurs, c'est le cas pour moi, l'argent peut devenir une source de tentation de différentes manières. Et vous avez aussi probablement soit entendu ou constaté que l'argent, c'est habituellement une des sources principales de conflits dans le couple et par extension dans la famille. Si y a un conflit, s'il y a des difficultés au niveau de l'argent avec le père et la mère, souvent ça va avoir un impact sur les enfants aussi. Donc la question à se poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour gérer ses finances pour la gloire de Dieu et pour le bien de la famille. Donc, premièrement, l'argent comme une bonne chose qui vient de Dieu. C'est bon de se rappeler en commençant que Dieu possède toutes choses. Tout l'argent puis tous les biens que nous-mêmes on possède, bien, ils appartiennent en réalité à Dieu. Si j'ai des biens qui sont à moi, de l'argent qui est à moi, mais que moi-même je suis esclave de Dieu, j'appartiens à Dieu, bien, par extension, tous mes biens sont ceux de Dieu. 1 Corinthiens 10, 26 nous dit « Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. » Et dans 1 Chronique 29, 14, « Tout vient de toi et c'est de ta main que vient ce que nous te donnons. » Même ce qu'on redonne en offrande à l'Éternel à la base, ça lui appartient déjà et c'est lui-même qui nous l'a confié. Donc c'est Dieu qui pourvoit à nos besoins et dans le monde dans lequel on vit, c'est entre autres avec l'argent qu'il le fait. Dieu pourvoit le travail et il pourvoit aussi la force pour qu'on puisse accomplir nos emplois. Deutéronome 8, 17, 18, est-ce qu'un frère ou une sœur voudrait nous... Amen. Puis en fait, déjà dans la loi de l'Ancien Testament, il y avait une mise en garde contre l'orgueil de dire « c'est parce que je suis pas mal hot que je suis capable de gagner autant d'argent que j'ai du succès. » Non, c'est des choses qui viennent de Dieu. Puis même si on a moins d'argent, même si on est dans des difficultés financières, c'est bon de se rappeler que Dieu prend soin de nous. Psaume 37, 16, 17 nous dit « Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. » L'argent, c'est une des manières par lesquelles le Seigneur prend soin de nous, mais ultimement, sa grâce envers nous puis son soutien à notre égard dépasse de loin ce que l'argent peut nous donner. On est ses enfants, nous garde de manière précieuse, puis on va voir ça aussi un peu plus en détail alors qu'on avance dans l'étude. Donc, à la lumière de tout ça, je pense que c'est une attitude d'humilité puis une attitude de reconnaissance qui est de mise face à ce qu'on a. Humilité parce que tout nous vient de Dieu et on ne mérite rien, c'est pas même par la force qu'on s'est acquise nous-mêmes, qu'on peut posséder des biens et gérer ce que Dieu nous confie. Puis, je pense que c'est bon aussi d'être reconnaissant pour la mesure de biens, pour les aptitudes qui nous permettent de travailler, qui viennent du Seigneur, puis qui nous confient. Donc, l'argent, c'est pas une mauvaise chose. C'est pas même un mal nécessaire. Des fois, on entend ça dans les cercles chrétiens que l'argent est tellement associé à des vices que c'est pas une bonne chose en soi. Je pense pas que c'est le cas, même s'il y a des dangers qui sont associés. C'est vraiment un don d'un Dieu bon qui veut prendre soin de ses enfants. Avant qu'on continue avec le danger de l'argent, je ne l'ai pas mentionné au début, mais si jamais vous avez des commentaires que vous voulez faire ou des questions que vous voulez poser, n'hésitez pas à lever la main puis à interagir avec moi. Oui, vas-y. C'est ça qu'on va voir justement, là, face au danger de l'argent. Bien que l'argent, ça soit à la base une bonne chose de Dieu, bien, l'être humain a tendance à vouloir l'utiliser pour satisfaire ses propres désirs, puis des désirs qui sont pécheurs. La Bible est claire sur le danger qu'il existe d'idolâtrer l'argent, d'en faire son Dieu. Est-ce que quelqu'un pourrait nous lire le verset à l'écran, Matthieu 6, 21 et 24? Mm-hmm. Donc, l'idée d'argent comme maître, là, Sébastien, que tu mentionnais, on peut la voir dans ce passage-là. Puis, c'est un danger auquel même nous qui sommes en Christ sommes exposés de laisser l'argent prendre une place trop importante dans notre vie. C'est bon de se rappeler que l'argent ne va jamais nous rendre satisfaits, mais Dieu, lui, oui, peut nous rendre pleinement satisfaits. Ecclésiaste 5, 9 nous dit « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Celui qui aime le faste n'a pas de revenu. C'est encore là une vanité. » C'est comme beaucoup de choses dont parle l'Ecclésiaste, là. À part le bien qu'on trouve en Dieu, il n'y a pas sur terre quelque chose qui peut réellement nous combler. Et Philippiens 1, 21 nous dit « Car pour moi, Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Donc, Christ peut satisfaire le cœur des enfants de Dieu, de sorte que même les épreuves les plus difficiles, même l'idée de mourir n'est pas considérée comme étant la fin, comme étant un mal incroyable. Oui, c'est une pensée difficile, la mort, mais ultimement, on sait qu'on est vraiment scellé en Christ et que les biens spirituels, on ne va pas les perdre. Donc, lorsque l'argent devient notre priorité ou bien notre idole, notre maître, il y a plusieurs attitudes, plusieurs affections pécheresses qui risquent de germer en nous. 1 Timothée 6, 10 dit « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. » Ce que je voudrais faire, c'est regarder avec vous quelques dangers communs et dont la Bible parle beaucoup reliés à l'argent. Et le premier de ceux-ci, c'est la cupidité. La cupidité, on pourrait la définir comme un désir de toujours posséder plus. Est-ce que quelqu'un pourrait nous lire 1 Timothée 6, 9 à l'écran? Vous avez peut-être vu même des exemples dans la vraie vie, des exemples dans des films, dans des séries, où l'amour de l'argent amène des gens à faire des choses incroyables, à tomber dans le péché et à s'enfoncer dans un gouffre qui mène à leur ruine, qui mène à leur perdition. C'est réellement un danger, puis même, si on veut, l'expérience humaine nous le prouve à plusieurs reprises. Même il y a un des... Oui, vas-y. Puis aussi, une certaine disparité de la richesse qui est reliée à, justement, le cœur mauvais de l'homme, là, dans la gestion de société aussi, là, qui est frappante. Ça fait penser aussi, il y a un autre passage dans l'Ecclésiaste là, qui dit « Tu travailles fort pour quelque chose, là, puis après ça, tu ne vois même pas le fruit, c'est un autre qui en profite. » C'est un peu, un peu ça aussi. Là. Ouais. Ça doit être un beau défi quand même de flober 650 millions de dollars, mais oui, en effet, puis on va parler un peu plus loin de la gestion de l'argent, parce que c'est pas l'idée de dire c'est mal d'amasser de l'argent ou c'est mal d'essayer d'en gagner plus en soi. Mais il y a des attitudes pécheresses à la base d'un amour excessif pour l'argent qui peuvent nous habiter. Puis on va voir que c'est bon, là, mettre de l'argent de côté pour de l'épargne, puis c'est pas de l'avarice. T'sais. Mais il y a une certaine nuance, oui. Puis il y a aussi un autre aspect là, qu'on peut voir dans les 10 commandements où l'Éternel demande de ne pas convoiter. Puis je pense que c'est un bon exemple parce que c'est une chose de vouloir plus d'argent, mais il y a aussi la nuance de dire vouloir des choses qui ne nous appartiennent pas ou vouloir des choses qui n'est pas légitime de posséder. Donc, je voulais ajouter aussi cette nuance-là. Une autre chose à prendre garde, c'est l'avarice. Puis des fois, on peut se demander c'est quoi exactement la différence entre l'avarice et la cupidité. C'est deux mots qui se recoupent quand même beaucoup, là. Mais je dirais que l'avarice, là, c'est un attachement excessif à l'argent. C'est surtout de vouloir le garder, de l'amasser toujours plus, de ne pas vouloir le dépenser, de laisser tomber la générosité, de ne pas vouloir le partager. Puis face à l'avarice, c'est bon de se rappeler que notre vie humaine se résume pas à nos possessions. C'est pas la quantité de choses qu'on possède qui définit notre valeur. C'est Dieu qui nous donne une valeur. Puis même lorsqu'on va quitter cette terre, il y a rien de ce qu'on aura accumulé financièrement ici qu'on va amener avec nous. C'est un héritage spirituel auquel on est appelé. Donc Luc 12, 15 dit, mais c'est Jésus qui parle, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Et dans Matthieu 6, 20, en opposition à l'idée d'amasser toujours plus d'argent ou de possessions matérielles pour notre plaisir, pour notre sécurité, on nous dit, amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mites et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs, ni voler. Même si on se dit, hey, je vais profiter de mes richesses avant de partir, avant d'aller au ciel, on n'est même pas garanti qu'on va garder ce qu'on possède. Il y a plusieurs malheurs qui peuvent arriver sur la terre. Justement, on parle de voleurs, mais il y a des tragédies qui peuvent arriver qui font en sorte qu'il n'y a pas de stabilité réelle dans nos biens ici sur terre. Une autre attitude à laquelle il faut faire attention, c'est le mécontentement. Je le définirais, en fait, je dirais que le mécontentement est associé à la pensée que nous méritons plus ou que nous souffrons d'une injustice. Ça, c'est aussi difficile dans un monde où il y a des réseaux sociaux, où il y a tellement d'occasions de se comparer à des gens qui possèdent plus. C'est facile de regarder des influenceurs puis dire « No way que ce gars-là ou cette fille-là travaille plus fort que moi puis il fait comme 20 fois plus que moi. Là. C'est quoi l'affaire? » C'est facile de se comparer et de sentir qu'on subit une injustice. C'est pas nouveau sous le soleil. Le peuple d'Israël a fait la même chose. Est-ce que quelqu'un pourrait nous lire Nombre 11, 4 et 5? C'est frappant. Le peuple a été en esclavage 400 ans en Égypte. Dieu se manifeste à eux par l'intermédiaire de Moïse et des signes grandioses. Les délivre de la main des Égyptiens en opérant un prodige incroyable, en séparant la mer en deux. Le peuple passe. Le peuple même loue l'Éternel. On a un cantique qui est composé en honneur de l'Éternel. Non seulement ils sont sauvés d'Égypte, mais Dieu, même dans le désert, pourvoit pour la manne. Au milieu du désert, un peuple de plusieurs centaines de milliers d'individus ne manque pas de nourriture, mais ils se plaignent. Ils se plaignent qu'ils avaient plus en Égypte. Ils veulent avoir davantage, puis c'est comme s'ils considèrent que Dieu n'est pas un Dieu qui leur donne leur dû. Je pense qu'on est appelé à vivre dans le contentement parce que, juste pour terminer ce point-là, on ne mérite rien à la base. C'est bon de se rappeler que non seulement Christ pourvoit à nos besoins sur cette terre-ci, mais alors qu'on était ses ennemis, il nous a offert la paix par Jésus-Christ, il nous a rachetés, puis on a la promesse d'un héritage, lui, qui n'est pas corruptible et dont on va pouvoir bénéficier pour l'éternité en présence de Dieu. Puis c'est un héritage même qui a commencé maintenant par l'Esprit qui est en nous et qui ne nous abandonne pas. Sébastien, tu voulais mentionner quelque chose?
Le verset qu'on vient de lire, qui est vraiment frappant, je ne sais pas, dans la Bible, le Sommeur, verset 5, c'est « Nous regrettons le poisson qu'on mangeait pour rien en Égypte. » Quand on sait très bien qu'il était esclave, qu'il était maltraité, qu'il souffrait, comment est-ce qu'ils ont inversé les choses que là, actuellement, sont dans le désert et qu'ils sont nourris pour rien parce que c'est Dieu. Quel mensonge est venu prendre place dans leur cœur, incapable de réaliser.
Vraiment. Je veux dire, d'après moi, le premier jour où les Israélites ont constaté la manne au sol, Dieu pourvoit une nourriture apparaît dans la rosée. Ils ont dû être fascinés, ils ont dû la manger avec intérêt, là. Mais tranquillement, tranquillement, probablement que c'est au fil du temps que là, il y a dans leur cœur des mauvais désirs qui ont germé.
Je me demande si peut-être quelques années plus tard, quand ils se sont mis à travailler pour avoir la nourriture, qu'ils ne se sont pas mis à pleurer. « Oh, nous regrettons quand nous n'avions même pas besoin d'avoir notre manne, à quel point on est insatisfait. »
Oui. Hein? Ça serait typique du cœur humain. Oui. Oui. 1 Timothée 6 à 8 nous dit « Certes, c'est une grande source de gain que la piété, si l'on se contente de ce qu'on a. Car nous n'avons rien à porter dans le monde, comme aussi nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Je pense que ce serait la dernière phrase, elle serait difficile à dire pour quelqu'un qui n'a pas Christ. Quelqu'un qui n'a pas d'espérance de dire, « Ben, regarde, j'ai de la nourriture, j'ai du vêtement. » C'est une vie qui, humainement parlant, serait difficile, voire misérable. Mais nous, quelle assurance on a que nos biens sont beaucoup plus grands que nos avoirs matériels le laissent présager. T'sais. Puis, ce passage-là vient juste avant celui qu'on a lu plus tôt, où ça dit que l'amour de l'argent est la racine de plusieurs maux. Donc, vraiment, ici, le contentement et la piété est mis en opposition avec le fait de tomber dans tous les vices qui sont associés à idolâtrer l'argent. Et dans Hébreux 13, 5 et 6, on lit « Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de vos biens actuels, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai. » C'est pourquoi nous pouvons dire avec courage « Le Seigneur est mon secours. Je n'aurai pas de crainte. Que peut me faire un homme? » En lien avec ce passage-là qu'on a lu, l'idée de dire « Je crains rien parce que Dieu est mon secours », une autre chose qu'on peut avoir, qui peut avoir tendance à germer dans nos cœurs par rapport à l'argent spécifiquement, c'est l'inquiétude. Je pense qu'on peut tous bien comprendre c'est quoi le concept d'inquiétude puis comment on peut s'inquiéter en ce qui a trait à l'argent, mais j'aimerais ça vous lancer une question ouverte, là. D'après vous, quel genre de mauvaise décision peut prendre quelqu'un qui s'inquiète par rapport à l'argent? On peut penser de manière générale, mais aussi dans le contexte de famille. L'idée de prioriser la manière dont on utilise l'argent. Oui, ouais, je pense que c'est des bons exemples. Ultimement, on l'a vu aussi un peu plus tôt, là, c'est les richesses spirituelles qui nous rassurent, puis ultimement, c'est Dieu lui-même qui nous rassure. Donc, si on cherche à oui, aussi on cherche à combler notre inquiétude par rapport à l'argent, en se confiant à l'argent, ça va mener à la perdition. Bon, il y a des situations où il y a réellement un manque d'argent qui peut arriver, qui nous amène à travailler davantage. Puis ça, il y a différentes situations de vie qui viennent, mais je pense que les exemples que vous donniez n'étaient pas exactement par rapport à un contexte extrême. Juste dans notre vie, on peut s'inquiéter alors qu'on n'a même pas, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Ça, des fois, ça indique qu'on met trop notre espoir puis notre confiance dans notre argent. Est-ce que quelqu'un pourrait nous lire Matthieu 6, 31 à 33 à l'écran, s'il vous plaît? Oui, donc l'invitation, c'est à chercher premièrement Dieu. Puis une fois qu'on a une base, non seulement une base, mais que Dieu est notre ferme appui, juste la prise de décision, la sagesse dans les décisions qu'on a à faire, puis les priorités vont comme se ranger lorsqu'on est vraiment fondé en Dieu puis dans sa parole. Donc, maintenant qu'on a regardé les dangers puis aussi le côté bon et bien de l'argent, on va plonger un peu plus dans le concret, comment ça nous affecte nous, comment ça affecte notre famille, entre autres avec certains préceptes liés à l'argent. Je pense qu'en premier, c'est bon de considérer l'argent à sa juste valeur. On est tous d'accord que c'est important, puis c'est même essentiel pour vivre dans ce monde-ci. Mais il y a plusieurs choses qui sont plus importantes que l'argent, plusieurs choses même dans la manière dont on vit dans notre couple, la manière dont on veut éduquer nos enfants, qui doivent prendre une priorité, puis qui visiblement, en particulier en tant que parents, doivent refléter notre, notre confiance en Dieu. Donc, il y a plusieurs passages là, qui sont ici. Je vais les distribuer à moi. Bien, j'ai vu quelques personnes tourner. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui est dans Proverbe 15? Okay. Fait que Célestin, tu pourras lire Proverbe 15. Richard, peux-tu lire Proverbe 16-8 et 16-16? Sébastien, pourrais-tu lire Proverbe 19-1? Dominique, pourrais-tu lire Proverbe 22-1? Et Améo, Proverbe 31-10, s'il vous plaît. Donc, je vais nommer les passages, puis quand je les nomme, vous pourrez lire. Donc, Célestin. Donc, selon ce passage-là, qu'est-ce qui est plus important que l'argent et les richesses? La crainte de l'Éternel. Oui, c'est la base d'une vie chrétienne. Oui, puis il y a une autre chose qui a été mentionnée. Veux-tu relire le verset 17? Oui, c'est ça. Mieux vaut peu avec l'amour qu'un bœuf engraissé là où il y a la haine. Richard, tu peux lire Proverbe 16-8. Donc, encore là, vivre une vie intègre, une vie juste, être juste devant Dieu, c'est plus important que des gains. Puis même plus loin dans les Proverbes, ça veut dire que des gains mal acquis disparaissent rapidement. Donc, tu peux lire le verset 16. Donc, encore là, l'intégrité, on l'a touché un peu, là, ça recoupe aussi avec la justice, mais... ça peut être tentant de mentir, entre autres dans nos déclarations d'impôt, là, on est dans la saison, pour garder un peu plus d'argent dans nos poches, là, mais on est appelé à considérer le fait de marcher dans l'intégrité puis la vérité comme étant un bien supérieur pour nos vies que les richesses. Dominique, peux-tu lire ton passage? Donc, c'est quoi les deux choses dans ce passage-là qui semblent être mieux que l'argent? La renommée. La renommée, la grâce. Bon, la grâce, peut-être qu'on peut comprendre. Après vous, en quoi est-ce que la renommée est quelque chose à considérer? Oui, exact. Il y a le danger de tomber trop en accordant trop d'importance à la réputation, mais je pense que ça recoupe aussi avec l'idée d'être intègre. Tu veux être un bon témoignage. Tu veux avoir... tu veux que être un visiblement un fidèle intendant de ce que Dieu te donne comme ressource. Et finalement, Proverbe 31-10, Mio. Donc là, évidemment, même une femme, un compagnon de vie, la personne avec qui on passe notre vie a une valeur beaucoup plus grande. Puis trouver même, c'est pas juste n'importe quelle femme, où on pourrait extrapoler n'importe quel homme, mais c'est un homme ou une femme de valeur. Qui aime Dieu, c'est une valeur inestimable. Donc, en lien avec ce qu'on vient de lire, si les enfants voient leurs parents prioriser l'argent, puis prioriser les possessions matérielles, bien, les chances sont qu'ils vont grandir avec une mentalité similaire. Puis il faut donner la priorité aux bonnes choses, c'est-à-dire justement aux différents préceptes qu'on a lu aujourd'hui. Je pense que si on s'inquiète avec l'argent, les enfants vont le voir. Si on se plaint toujours du coût de la vie, de nos revenus, de nos patrons qui ne nous donnent pas d'augmentation, les enfants le remarquent. Je pense que c'est important d'être un bon témoignage, puis pour nous-mêmes, en tant que parents, vivre dans le contentement et vivre en appréciant premièrement les différentes choses qu'on a lues dans les versets de Proverbes. Un autre précepte lié à l'argent dont la Bible parle quand même beaucoup, c'est de travailler fort et de travailler bien pour gagner l'argent. On a lu plus tôt que même la force d'exécuter notre travail, nos aptitudes, nous viennent de Dieu. C'est bon aussi de se rappeler que le travail a été établi par Dieu avant la chute de l'homme. Le travail, le fait de devoir s'occuper comme ça, ce n'est pas le résultat du péché. C'est à la base même de ce que Dieu a prévu pour les êtres humains sur cette terre. Dans Genèse 2,15, on peut lire « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Puis, l'idée du travail, c'est une manière dont Dieu veut qu'on s'occupe. Oui, une manière de gagner de l'argent, mais c'est aussi une manière de glorifier Dieu, puis on pourrait même dire que c'est premièrement une manière de glorifier Dieu parce que tout ce qu'on fait, il faut le faire de toute notre âme, de tout notre cœur, de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Donc, même lorsqu'on est au travail, même si c'est difficile, même si on ne gagne pas autant qu'on voudrait, ça reste que ça peut être une offrande de bonne odeur pour le Seigneur de travailler fidèlement, puis de chercher à honorer ceux avec qui on travaille, puis de vivre ce travail-là pour sa gloire. Les deux épîtres de Paul aux Thessaloniciens rappellent qu'il faut chercher à pourvoir à ses propres besoins, rappellent l'importance même de travailler. Donc, 1 Thessaloniciens 4, 10b et 11 nous dit « Mais nous vous exhortons, frères, à progresser encore, à mettre votre honneur à vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. » L'oisiveté ou la paresse, ce n'est pas des choses qu'il faut entretenir, puis je pense que c'est important de s'appliquer à travailler. Après ça, il y a différentes circonstances dans la vie qui font que quelqu'un ne peut pas travailler, puis ça, bien, c'est compréhensible, là, des problèmes physiques, des problèmes même mentaux qui font en sorte qu'il faut soit se retirer du travail un peu ou de manière indéfinie. C'est des choses qui arrivent, mais comme règle générale de base, l'être humain est appelé à travailler. Puis, je vais faire tout de suite une parenthèse aussi. Il y a des familles qui font le choix que la femme reste à la maison pour s'occuper de la famille de cette manière-là. C'est un fonctionnement, je pense, qui est très bien, mais l'idée, c'est pas de dire, « Ah, vu que la femme reste à la maison et ne fait pas d'argent, il faudrait qu'elle aille travailler pour respecter cette ordonnance-là. » Je pense que le travail domestique, entre autres, l'idée de prendre soin de la maison, de la famille, comme Tite nous le dit, est une chose qui est noble et qui rentre tout à fait dans cette catégorie de l'idée de travailler, là. Et dans 2 Thessaloniciens 3, 10 à 12, on lit « Car lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Or, nous apprenons que certains d'entre vous vivent dans le désordre et qu'au lieu d'agir, ils s'agitent. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à travailler paisiblement et à manger leur propre pain. Encore là, l'idée de dire, si vous pouvez travailler, si vous avez la force, les capacités, ben travaillez, ne cherchez pas à dépendre des autres pour vos biens, pour votre pain, pour votre salaire. Puis, pour terminer cette partie-là sur le travail, le livre des Proverbes met en lumière une éthique de travail appliquée. C'est un exemple classique. Proverbes 6:6, « Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. » La fourmi qui est un exemple de diligence, de discipline dans le travail, d'être à son affaire, d'être prévoyant. Et un peu plus tôt, dans Proverbes 5:4, « Celui qui agit d'une main nonchalante s'appauvrit, mais la main des hommes actifs enrichit. » Une question ouverte par rapport à cette section-là sur le travail. Comment est-ce que ça peut être vécu en famille? Ou comment est-ce que ça peut être enseigné, l'idée de bien travailler, de travailler fort? Ouais, ce n'est pas juste l'argent qu'on gagne, mais c'est avec l'argent qu'on a gagné, qu'on a comment lui le gérer pour ne pas qu'on dépende toujours de... Puis pour ne pas tomber dans cette dynamique-là, il va falloir être des bons intendants. Puis juste pour... Je vois le temps qui avance, là. On va toucher à ces aspects-là plus tard, donc on va continuer à rouler pour être sûr qu'on y arrive, là. Est-ce qu'il y a une ou deux interventions par rapport à comment est-ce qu'on peut enseigner dans le contexte de la famille... Comment bien travailler, comment travailler. Ouais, donc par l'exemple, même qu'on est dans la manière dont on parle du travail, dont on traite le travail, si on est assidu, mais on peut même inculquer le précepte du travail aux enfants en leur donnant des tâches, des responsabilités. Puis, en tout cas, moi, je sais qu'une partie de mon éthique de travail, qui est encore à développer, mais je l'ai acquise au camp des boulots, j'étais staff. Aller travailler un été, la motivation, c'est aussi d'être avec ses amis tout l'été au camp, mais on arrive là-bas, puis OK, lave des toilettes, allez. OK, mais il y a différentes manières là, où on peut soit par en donnant des tâches, en encourageant le travail, mais juste par l'exemple personnel, on peut témoigner de cette attitude-là travaillante. Là. Donc, on arrive à la partie de la gestion de l'argent pour la gloire de Dieu. On y est allé peu à peu, mais c'était ce que j'ai trouvé pertinent qu'on ait des bonnes assises là, pour arriver à cette partie-là. Parce que si on ne voit pas le danger de l'argent, c'est difficile après d'avoir une idée juste de la gestion de cet argent-là. Le premier point dont je voudrais parler, c'est l'idée d'un partage total entre les époux. Dans Genèse 2, 24, on lit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Dans le mariage, les époux ils s'engagent au complet, ils engagent leur être entier l'un envers l'autre, puis je pense que cet engagement-là doit inclure l'argent. Si on cherche à vraiment être une seule chair, mais qu'on a complètement des comptes bancaires séparés, secrets, on gère nos revenus séparément, il y a comme à mes yeux une dichotomie ici, là, ça ne fonctionne pas. Même les premiers chrétiens, ils ont senti le besoin de partager entre eux tous leurs biens pour pouvoir travailler ensemble puis pour être efficaces. Puis d'après moi, dans un couple qui forme justement une seule chair, c'est encore plus souhaité. On peut lire dans Actes 4, 32, « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. » Je pense que c'est une attitude qu'il faut avoir dans le couple de dire « c'est pas ma voiture, c'est notre voiture. C'est pas ma maison, c'est notre maison, par exemple. » Puis d'une manière pratique, qu'est-ce que ça signifie? Bien, je pense que c'est comme j'ai dit, l'idée de traiter les comptes bancaires appartenant à l'un ou à l'autre, souvent sont à deux noms, des fois c'est des comptes conjoints aussi, mais de considérer tous ces comptes-là comme un tout, comme un ensemble d'actifs qui appartient aux deux membres du couple et qui est géré d'un commun accord. Je pense que c'est important d'avoir un budget commun et unique. Ça, on va parler aussi un peu plus loin de l'idée du budget. Je pense que c'est important aussi de considérer les revenus et les dépenses de chacun des époux comme étant ceux du couple. Si quelqu'un fait 40 000 puis l'autre 20 000, il n'y a pas un qui a les deux tiers de l'importance des décisions qui pèsent sur lui parce qu'il fait plus. Non, c'est l'idée de dire, on est un couple unique qui fait 60 000 par année. Comment est-ce qu'on gère cet argent-là? Et quand le couple est uni financièrement, une des choses qui peut arriver, c'est que la femme peut rester à la maison, si le couple le décide, sans craindre de ne pas pouvoir répondre à ses besoins. Nécessairement, si une femme est à la maison, ben à moins qu'elle ait une business sur le côté, ça arrive, mais ultimement, si elle s'occupe juste de la famille, des enfants, de la maisonnée, ben elle fait pas d'argent, c'est le mari qui en fait. Mais là, si jamais le couple ne vit pas les finances ensemble, ben la femme va se retrouver et va prise, le mari qui garde tout l'argent pour lui-même, ça fonctionne pas là. Mais dans un couple uni, quand on considère l'argent comme étant celui du couple, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Aussi, les époux se font confiance et se montrent dignes de confiance aussi au niveau de leurs dépenses. C'est une bonne question à se poser aussi. Est-ce qu'il y a des dépenses que je fais en secret que j'aurais honte que mon époux ou mon épouse découvre? Je ne pense pas que ça devrait avoir lieu. Et finalement, quand le couple est uni financièrement, les époux ne comparent pas leurs revenus pour se faire des reproches. Hey, moi, je fais plus que toi, il faudrait que tu te déniaises. Là. Je pense pas que c'est. Mais c'est un danger, mais je pense pas que c'est quelque chose qui devrait arriver. On peut trouver des solutions s'il y a un réel besoin de gagner plus d'argent, okay, comment on s'organise, qui peut faire quoi, mais l'idée de toujours se mettre de la pression, une compétition malsaine, je pense pas que ça devrait avoir place dans un couple. L'autre aspect de gérer l'argent que je voudrais toucher, c'est l'idée de donner généreusement. Puis le premier point que je voudrais toucher, c'est la question suivante. Doit-on donner la dîme? C'est une question qui sûrement suscite des avis différents. Je vais vous partager ma position personnelle, mais aussi la position qui, qui, qui enseignait à l'Église. Puis je vais l'amener de manière progressive, là. Donc, si on regarde d'où vient la dîme, c'est qui est l'idée de donner un dixième de son revenu à l'Éternel, ben, on voit que dans l'Ancien Testament, c'est présenté comme une loi à Israël. On lit dans Lévitique 27, 30, « Toute dîme des produits de la terre, soit des semences de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. » Mais, je pense que c'est bon de considérer qu'il y a une discontinuité entre l'ancienne alliance, l'ancienne loi qui a été conclue avec Israël, puis maintenant la nouvelle alliance dans le sang de Christ. Donc nous-mêmes, on est sous la loi de Christ et on n'est pas sous la loi qui est donnée au peuple par Moïse. Dans 1 Corinthiens 9, 20 et 21, Paul parle de sa stratégie d'évangélisation puis comment il s'adapte aux cultures des gens à qui il s'adresse. Puis il dit la chose suivante. « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. » Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Et Paul lui-même, qui est un juif, dit, « Et pourtant, je ne suis pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, et pourtant, je ne suis pas moi-même sans la loi de Dieu, mais sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. » Mais même s'il y a une discontinuité, même si on est sous la loi de Christ, on n'est pas sous la loi de Moïse, mais Dieu reste quand même l'auteur des deux lois, puis son caractère inchangeable est révélé dans l'une comme dans l'autre. La loi de Moïse n'était pas écrite dans les cœurs du peuple d'Israël. Peut-être que vous connaissez le passage dans Jérémie 31 où Dieu promet un jour d'écrire sa loi dans le cœur de son peuple. C'est ce qu'on vit nous en ce moment par l'Esprit qui est en nous. Mais ce n'était pas le cas encore dans le désert avec les Israélites. Ils avaient des cœurs mauvais, sans l'esprit en eux, qui avaient besoin de préceptes clairs sur des sujets comme, par exemple, l'offrande puis la dîme des revenus donnés à l'Éternel. Mais sous la Nouvelle Alliance, dans le sang de Christ, on a le Saint-Esprit en nous qui lui-même nous met à cœur de donner. On lit dans 2 Corinthiens 8, 2, quoique très éprouvés par des tribulations, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités. Comment est-ce que des gens dans la détresse puis dans la pauvreté pourraient donner avec joie si ce n'est par l'Esprit de Dieu qui agit en eux puis qui rend manifeste ce désir de donner, de faire du bien au peuple de Dieu, de prendre soin de leurs frères par leurs dons? Et dans 2 Corinthiens 9, 7, il écrit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. On connaît bien ce passage-là. Sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, il y a quand même une différence dans l'idée de dire, je suis tenu par la loi à donner un dixième, ou bien je suis appelé à donner avec joie par l'Esprit de Dieu. Mais c'est important de ne pas s'endurcir non plus. De ne pas avoir un cœur qui tombe dans les dangers de la cupidité puis de l'avarice, comme on a parlé plus tôt, et qui se retient de donner généreusement. Donc, bien qu'on n'ait pas tenu de donner, selon la loi, un dixième de nos revenus, je pense que cette ordonnance-là de l'Ancienne Alliance met en lumière de Dieu qu'il attend de nous qu'on soit généreux. Puis c'est quand même la loi de l'Ancien Testament, une loi qui met en lumière le caractère de Dieu, puis peut-être considérez-vous pour vous-même, peut-être que c'est déjà le cas, que c'est quand même un bon barème à suivre, mais ce n'est pas une loi à laquelle on est tenu. Ce qu'il faut retenir, c'est de donner généreusement puis avec joie.
Ça me fait passer au verset Luc 11, 41, quand Jésus dit « Donnez plutôt en offrande à Dieu votre être intérieur et vous serez du même coup entièrement pur. Mais malheur à vous, pharisiens, vous vous acquittez scrupuleusement de la dîme de toutes les plus petites herbes comme la menthe et la rue, et sur le moindre légume, mais vous négligez la droiture et l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il fallait faire sans laisser le reste de vous. »
C'est des cœurs durs qui s'en tenaient à un précepte.
Si tu veux te donner plus, ben donne plus.
Ouais. Puis oui, on est appelé à donner notre être entier à Dieu, même à offrir notre corps comme un sacrifice vivant, mais il y a aussi l'idée de, qu'on est appelé à donner de nos biens aussi financièrement, généreusement. T'sais, c'est pas juste de dire, ben, je suis un serviteur de Dieu, j'essaie de lui plaire, fait que j'ai pas besoin de donner. Je pense qu'on est appelé quand même à être généreux avec nos biens, mais sans négliger la raison pour ça. C'est une joie qui nous vient de notre amour pour Dieu. Donc, c'est pas par contrainte de loi qu'on donne, mais c'est par la joie que l'Esprit nous procure. Je vois le temps qui avance, donc je vais sauter sur une petite section que j'avais prévue, là. Faut-il donner de son nécessaire? Le temps avance, là. Je voulais regarder l'idée de... Vous vous rappelez sûrement l'histoire de la pauvre veuve, là, qui donne les quelques peu qu'elle a. Je pense pas qu'on est appelé à dire que, OK, là, on donne vraiment assez lorsqu'on prive nos enfants de repas, puis on se prive de repas, puis on n'a plus de maison. L'idée, c'est pas de manquer de sagesse avec les biens que Dieu nous donne. C'est une illustration de donner avec la foi que Dieu va prendre soin de nous, ultimement. C'est pas de dire, une fois qu'il me reste juste une paire de bobettes, une paire de souliers, un T-shirt blanc, puis j'ai donné tout le reste, là, je plais à Dieu, là. Donc, je vais sauter cette section-là parce que je veux arriver vraiment, je veux parler aussi de la planification avec l'argent puis l'idée de faire un budget. Peut-être que pour plusieurs, ça va de soi. Peut-être que pour d'autres, c'est pas quelque chose de complètement acquis, mais je pense qu'un bon administrateur des biens que Dieu donne connaît c'est quoi ses revenus puis connaît c'est quoi ses dépenses. Je pense qu'un bon intendant aussi gère ses finances de manière à ne pas s'endetter et peut investir ses avoirs aussi de manière à les faire profiter. Si on ne sait pas combien d'argent on gagne, puis on ne sait pas combien d'argent on dépense, bien on ne sait pas si on s'endette ou non. Si on ne regarde pas notre carte de crédit, si on ne regarde pas, je ne me rappelle pas, je ne sais pas combien je paye en loyer ou en hypothèque, je ne sais pas combien je paye en assurance, mais je pense que je gagne assez. Ce n'est pas une recette pour être stable et pour être sûr dans... notre gestion de l'argent. Proverbes 27, 23 et 24 nous dit « Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux, car la richesse ne dure pas toujours, pas plus qu'une couronne de génération en génération. » Donc, l'idée de connaître nos actifs, de connaître qu'est-ce qu'on a, c'est un précepte là, qui était enseigné dans les Proverbes. Pour parvenir à ça, c'est essentiel de tenir un budget. Puis ce budget-là peut être plus détaillé ou moins détaillé. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. J'aurais juste établir la base d'avoir au moins un certain budget de base, là. Donc, de connaître qu'est-ce qui rentre puis de connaître qu'est-ce qui rentre. Puis comme mon frère disait tantôt, là, s'il y a des dépenses qui ne sont pas planifiées, par exemple les dons à l'Église ou bien l'épargne pour la retraite, elles ne vont pas se matérialiser par hasard, là. Vous savez déjà... C'est difficile, puis ça demande d'être intentionnel, de mettre de l'argent de côté pour la retraite. Ça demande d'être intentionnel, de mettre de l'argent de côté pour l'Église, sinon on donne juste des restes. Puis un budget, c'est un outil qui nous permet aussi de faire ça. En établissant, selon les revenus qu'on fait, quelle portion de ces revenus-là on veut mettre ici ou là, pour la nourriture, pour quoi que ce soit. Oui, c'est ça. Un autre aspect là, qui est un peu lié à l'idée de faire un budget, c'est juste de vivre en fonction de ses moyens. Une fois qu'on sait combien on gagne, on sait combien on dépense, si on réalise que nos dépenses, hey boy, dépassent même ce qu'on gagne, ben on tombe vers la route de l'endettement, là. Donc, c'est nécessaire de faire des ajustements à sa manière de vivre. Puis, de manière générale, je pense que c'est préférable de chercher à diminuer ses dépenses en premier, avant de chercher à augmenter ses revenus. Des fois, ça ne va pas être possible. Des fois, on est vraiment en bas, on ne peut pas dépenser moins. Il faut trouver des manières de gagner plus, peut-être pour une saison, peut-être de manière plus stratégique, réévaluer des choix qu'on fait. Mais je pense que dans beaucoup de cas, on peut se priver de plus de choses avant que ça touche même à notre nécessaire. Puis, je donne l'exemple ici, là, si... Si un mari décide de prendre un deuxième emploi pour subvenir aux besoins excessifs d'une famille, ben c'est pas idéal pour la vie de couple, c'est pas idéal pour la vie de famille. Puis on en avait parlé un peu tantôt aussi avec l'idée de l'inquiétude puis de travailler toujours plus. Si jamais vous êtes dans une situation où vous réalisez que les dépenses dépassent les revenus, je vous inviterai à considérer premièrement voir qu'est-ce qui peut être coupé pour atteindre un équilibre là, qui peut être soutenu. Je pense aussi que c'est important d'accumuler l'argent sagement. Puis c'est bon aussi ça de le montrer aux enfants. Accumuler l'argent, c'est une tâche qui est longue. C'est une tâche qui nécessite aussi beaucoup de discipline. Proverbe 13:11 nous dit « Les biens mal acquis diminuent, mais celui qui amasse peu à peu les augmente. » Je me rappelle quand j'étais jeune, ça a commencé jeune, mes parents avaient pris la décision de me donner une petite allocation à chaque semaine. C'était comme un dollar ou deux dollars. Après ça, vous déciderez vous-même si c'est quelque chose que vous voulez. Là, je ne suis pas en train d'endosser ou de critiquer ça. Mais ils me donnaient une allocation chaque semaine, mais je n'avais pas le droit de la dépenser. Fait qu'ils me disaient, tiens, je te donne 2 $, mais je le mets de côté pour toi. Puis chaque semaine, c'était comme ça, chaque semaine, c'était comme ça. Puis après plusieurs années, mon père m'a dit, hey, t'as 1000 $. Hein? OK. Wow. Tu sais, j'avais aussi fait des petites jobines sur le côté, puis ça... C'était long, tu sais, à chaque fois, j'étais comme, ah, il me semble que 2 piastres, là, quand j'accompagne maman à l'épicerie, je pourrais le mettre dans la machine distributrice, là. Dans le temps, il y avait des, tu sais, les petits, c'était comme des trucs Winnie the Pooh que tu pouvais mettre sur ton ensemble de clés. Il y avait des trucs comme ça, je dis, ah, j'aimerais ça avoir ça, mais ultimement, j'ai appris par mon père qui m'a montré ce précepte-là à dire, hey boy, l'argent accumulé peu à peu, à long terme, ça grandit, mais c'est un travail qui est difficile. Puis, il va arriver un jour où soit vous ne pourrez plus travailler, soit vous voudrez prendre votre retraite, ou même peut-être il y a un imprévu qui va nécessiter une somme d'argent rapidement. Si on vit juste de, juste en anglais, le paycheck to paycheck, si les revenus qu'on gagne, on en a tout de suite besoin, puis on n'est pas capable d'en mettre de côté, puis là, il y a un électroménager qui brise, mais là, ça va être difficile de gérer cette situation-là. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est bon de prévoir en fonction et de tout de suite mettre de l'argent de côté comme on peut pour ces situations-là. Ultimement pour la retraite, mais aussi pour quelconque imprévu qui peut arriver. Proverbe 13:11 nous dit « Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Elle qui n'a ni capitaine, ni officier, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. » Donc pendant l'été, elle amasse déjà ce qu'elle va consommer pendant l'hiver. Donc, ça conclut ce que je voulais vous partager ce matin. C'est sûr, c'est un sujet vaste. On aurait pu aller plus en détail dans différentes voies. On aurait même pu ajouter d'autres choses. Mais je vous invite à faire attention à vos cœurs. Moi-même, il faut que je le fasse par rapport à l'argent, d'être des bons intendants de ce que Dieu nous donne. Puis, passer des bons préceptes à toute la famille, à vos enfants, en ce qui a trait à une saine gestion de l'argent. Donc, et voilà, ça fait le tour. Est-ce qu'il y aurait des questions, des commentaires, une question ou un commentaire? Si vous pensez à d'autres choses dans les prochaines semaines, on a une boîte à questions. Donc, on a prévu un dimanche complet pour répondre à des questions additionnelles sur les sujets dont on traite.